Mesdames et messieurs, cher président Le Dru, chère madame Lacombe, mesdames et messieurs, c'est naturellement, je me suis posé la question pourquoi cette invitation, et en même temps, effectivement, il y a un lien très profond entre le Conseil économique, social et environnemental et le monde agricole, puisque j'ai ici Jean-Michel Lemétayer, qui est un des membres, il y a Luc Guyot, qui en était dans, puis il y a plein d'anciens membres du Conseil économique, et donc le Conseil économique est très lié au monde paysan, avec aussi aujourd'hui la dimension environnementale. Le Conseil économique aussi a probablement une vocation très proche de la vôtre. Nous sommes aujourd'hui devant de grandes difficultés pour nos décideurs. Le décideur économique est sous la pression des actionnaires à 3 mois et le décideur politique sous la pression des échéances électorales à 2 ans. Quand manifestement, au moment où la restriction de l'espace de réflexion et de décision et la restriction de l'espace temporel vont en contresens, il faut aujourd'hui penser monde et penser à 5 ou 10 ans et d'essayer d'analyser les forces qui sont en train de bouleverser complètement la structure de notre société. Et donc le CESE, qui s'inscrit dans cette notion de temporalité, de vision à moyen et long terme, est totalement en phase avec votre association qui, elle aussi, cherche à mesurer, à comprendre, à imaginer le monde de demain. Troisième élément, Président, vous aviez vous-même indiqué les questions qui étaient les vôtres, quelle était la place de la ruralité, quelle est la place d'une ruralité sans paysans, d'une agriculture sans agriculteurs, les nouvelles solidarités. Je pense qu'il faut que nous soyons les uns et les autres aujourd'hui convaincus ou tout au moins interpellés par l'extraordinaire période que nous vivons et les très grandes inquiétudes qu'elle suscite. Nous sommes dans des bouleversements complets de la société. Nous allons avoir des tsunamis qui vont complètement changer la donne, qu'ils soient de caractère financier, c'est évidemment la crise financière, sur le basculement démographique. Ça va complètement changer le rapport entre personnes âgées, personnes jeunes, mais aussi le défi alimentaire sur lequel nous reviendrons. Des bouleversements de caractère idéologique, car plus l'avenir est incertain, plus il y a des tentations très fortes de se réfugier dans des intégrismes protecteurs et dans des oppositions de pensée. Paradoxalement, au moment où nous n'avons jamais eu accès à autant de connaissances, à autant de capacités de se remettre en cause, il n'y a jamais eu autant d'incertitudes par rapport à l'avenir et autant de résistance par rapport au progrès. Et nous pourrions avoir des replis identitaires, des replis idéologiques, des replis territoriaux qui seraient complètement suicidaires, mais qui seraient paradoxalement soutenus par des votes démocratiques. Car les réflexes des peuples ne sont pas toujours des réflexes salutaires, ils sont des réflexes de survie. Et la notion de survie peut quelquefois faire en sorte que celui qui est en train de se noyer frappe celui qui est en train de le sauver. Nous devons aussi réfléchir au fait que le bouleversement de la société, de l'oral à l'écrit, aujourd'hui aux nouvelles technologies, de l'agriculture à l'industrie, à cette société nouvelle de l'immatériel dont personne ne parle. La société de l'immatériel, c'est 55% de la croissance aux États-Unis. Quand on parle d'un Boeing ou d'un Airbus, on parle de sa carlingue, de ce que l'on voit, on n'imagine pas que la plus-value matérielle est bien plus importante que l'aspect matériel. Et donc nous avons un problème, nous les Français, nous sommes très cartésiens et nous devons aujourd'hui tenter de mettre en équation des choses que l'on ne voit pas, qui sont un peu irrationnelles et des comportements que l'on a du mal à intégrer. Et c'est peut-être cela la force de votre association, la force du CESE, c'est d'essayer de se remettre en cause, car j'ai une conviction profonde, c'est que nous pilotons la société d'aujourd'hui avec les outils d'hier. Et on demande à la société de s'adapter à nos outils et pas à nos outils de s'adapter à la société. Et nous avons d'ailleurs tous les mêmes problèmes dans le monde agricole. On voit bien que quelquefois, on place plus de temps à défendre nos structures qu'à défendre les causes pour lesquelles nos structures devraient s'adapter. Et combien de fois on a fusillé des filières agricoles, tout simplement parce qu'on savait qu'il fallait fusionner des laboratoires, mais parce qu'il y avait des problèmes de personnes ou des problèmes. On a maintenu des structures qui ont fusillé et la structure que l'on souhaitait défendre et la cause que l'on prétendait défendre. Et donc je pense que la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui, c'est d'essayer de regarder quels sont les phénomènes d'instabilité lourde qui peuvent complètement faire imploser nos sociétés ou au contraire créer des forces qui peuvent la redynamiser. Et c'est la raison, quand je parlais des défis démographiques, je voyais qu'un des sujets majeurs, qui était au cœur pourtant de la ruralité, c'est que la vision trop comptable que nous avons des rapports entre personnes âgées et jeunesse, notamment sur les problématiques des retraites, notamment sur les problématiques de la santé, fait que si nous n'y prenons pas garde, je vois monter de façon de plus en plus forte, au nom de cet individualisme, de cette liberté individuelle que nous sommes en train de constater, nous sommes en train de passer d'une gestion collective à une gestion de rassemblement d'individus qui peuvent éventuellement adhérer à une vision collective. C'est plus du tout la même chose. Avant, on était de droite, on était de gauche, et le collectif disait on était paysan, on était ouvrier, on était assez structuré, y compris avec des normes du collectif qui frappaient nos normes individuelles. Aujourd'hui, chaque individu veut choisir son chemin. Ils ne veulent plus appartenir. Ils ne veulent pas être instrumentalisés, y compris même dans l'engagement. Je ne veux pas être de droite ou de gauche. Je veux choisir le projet de droite ou le projet de gauche. Et je veux être libre de mon choix, y compris d'ailleurs en le remettant en cause. Et il faut que nous intégrions cette donnée qui est extrêmement nouvelle, mais qui doit nous aider à anticiper ce qui peut faire exploser le vivre ensemble auquel nous sommes très, très, très clairement attachés. Et je vais vous donner deux ou trois exemples. La notion comptable des retraites a fait qu'on a complètement oublié le pacte de solidarité qu'il y avait entre ceux qui travaillaient et ceux qui payaient la retraite. On a tous dit on déplace un curseur, ça rapporte 2 milliards ou 3 milliards. Et cette vision comptable a fait que tout le monde a perdu et le sens de l'impôt, quelle chance j'ai payé de payer un impôt pour un projet de société qui me permet d'accroître une politique de solidarité, à l'impôt que je paye me prive de vacances, ça me perturbe. Et celui qui reçoit cette aide de solidarité ne perçoit pas non plus le sens et la richesse qu'il a d'être dans un pays qui assure cette solidarité. Et on est en train, paradoxalement, au nom de politiques très nobles dans les objectifs, de créer des conflictualités d'intérêts qui fait que celui qui paye des impôts estime qu'il en paye trop par rapport à des gens qui mériteraient d'être responsabilisés, ce qui n'est pas le cas. Et nous voyons monter très nettement un discours de plus en plus fréquent. Je suis jeune, je ne vois pas pourquoi je paierai la dette des anciens et la retraite des anciens. C'est la même chose sur un certain nombre d'offres administratives. Je pense par exemple d'une étude qui va sortir dans relativement peu de temps dans la banlieue. Et lorsque l'on posait la question aux jeunes en disant « Quelle est l'administration pour laquelle vous avez le plus de rejet ?» Nous pensions tous que c'était la police. On vient de découvrir que c'est l'école. Tout simplement parce que les espérances d'un parcours républicain, d'un ascenseur social sont aujourd'hui brisées et que la contrainte de ce parcours devient insupportable. Et lorsque le jeune dit « Lorsque le système m'a mis dans cette solution, je n'ai que deux solutions, détruire le système ou me détruire moi-même. » Et donc, on voit bien que nos jeunes ont envie d'apprendre. Mais quand on les contraint à apprendre, ils ont tendance à réagir lorsqu'ils disent avec Bac plus 2, je suis à Carrefour à payer 1200 euros par mois. Et donc, on voit bien qu'il y a d'extraordinaires capacités de mobilité. Et je reviendrai sur la ruralité parce que c'est là peut-être un de vos points centraux. J'ai mis longtemps à comprendre que toutes les politiques publiques en France, contrairement à beaucoup d'autres pays, mettez les personnes en situation d'échec et non pas devant la découverte de leur potentialité. Si vous posez la question à un Anglais ou à un Américain de dire « je suis nul », il ne sait pas vous répondre. Il n'y a pas de mot anglais ou américain pour dire cela. En France, ta femme est partie, t'es nul. T'es au chômage, t'es nul. T'as échoué à l'école, t'es nul. Nous sommes avec une génération montante et nouvelle qui n'est plus régulée uniquement par des aspects moraux comme les nôtres, ou par des protections jusqu'à 18 ans avec des problèmes sexuels et de caractère freudien. Nos jeunes aujourd'hui sont en quête d'identité et sont en mésestime d'eux-mêmes. Et la France n'a pas un problème uniquement de dette, elle a un problème de confiance en elle-même. Croyez-vous à l'avenir de la France ? La réponse est non. Croyez-vous en votre avenir individuel ? La réponse est oui. Et l'on voit bien que un des enjeux fondamentaux, c'est pas la maîtrise des budgets, c'est pas d'apaiser les marchés. c'est d'apaiser la jeunesse dans les inquiétudes qu'elle a sur elle-même et sur son devenir. Et à partir du moment où le problème se pose dans cette nature, c'est plus un problème de territoire, ville et campagne, c'est quel est le projet de société, le vivre ensemble que l'on peut mettre en place à la ville ou à la campagne, dont, de grâce, au moment où la mondialisation a fait sauter toutes les frontières, n'en créez pas vous-même entre la ville et la campagne. Vous êtes complémentaires. Vous êtes sur des mêmes espaces de vie. Le fait d'être à 2 heures de TGV de Lyon fait que Lyon est la banlieue parisienne. Nous avons un problème culturel de sectoriser, de normaliser, qui fait qu'au nom de ces normes, vous êtes dans les clous ou vous n'êtes pas dans les clous. Nous sommes en train de mettre une société d'inclusion plutôt qu'une société d'exclusion plutôt qu'une société d'inclusion. Nous sommes un territoire français dans un espace européen qui a une responsabilité lourde d'apporter un projet de société à l'échelle du monde qui ne peut pas aujourd'hui mettre la compétitivité entre les uns et entre les autres. Sinon, les lois républicaines que nos ancêtres ont mis en place pour lutter contre les privilèges et qui étaient censés protéger les faibles, paradoxalement aujourd'hui, risquent de protéger les forts. Et dans ce moment où notre société est structurée par des combustibles hautement inflammables, plus l'individu est conscient de sa liberté, plus il est fragile et moins il supporte les inégalités. Et aujourd'hui, nous avons un choc d'un côté, d'individus de plus en plus inquiet sur son devenir et constatant que les autres ne sont pas comme lui et qu'il y a des inégalités qui deviennent insupportables. Nous voyons que cette crainte de l'autre, ce racisme d'assiette, plus l'avenir est incertain, moins j'ai envie de partager avec l'autre. Et j'ai envie de rejeter l'autre dès qu'il risque d'être un facteur de fragilisation de mon confort. Et nous sommes tous les uns et les autres dans une véritable hypocrisie, dans laquelle d'ailleurs, mais sans vouloir en faire le procès, toute la classe politique depuis 40 ans, qui cherchait à conquérir le pouvoir, a eu comme vocation dans cette société de consommation de séduire un électeur, même si elle perdait un citoyen. Et l'on voit bien qu'aujourd'hui, nous ne pourrons pas construire des espérances collectives sur des désespérances individuelles et des responsabilités collectives sur des irresponsabilités individuelles. Et donc notre job, notre responsabilité, notre engagement, c'est de transformer les consommateurs d'aujourd'hui en acteurs de demain, de faire en sorte que les consommateurs de nos territoires deviennent acteurs de nos territoires, que nos consommateurs de nos institutions de la République, qui ne veulent pas que le prof soit bon, ils veulent qu'ils mettent 20 à mon gamin, que le juge soit bon, on veut qu'on fasse mal à celui qui m'a fait mal, deviennent des citoyens conscients de la responsabilité qu'ils ont dans la mise en œuvre de leur territoire. Et c'est là où votre histoire, votre spécificité apporte des éléments extrêmement importants de stabilité dans ce monde de plus en plus instable. Nous sommes dans un monde où les émotions l'emportent sur les convictions. Et n'importe quel système politique, n'importe quel système économique, le plus solide soit-il, peut être demain balayé par des émotions largement médiatisées. Nous avons besoin de facteurs de stabilité, la conviction. Nous avons besoin de temporalité nouvelle. Nous sommes dans une société stressée psychiquement. Quand nous étions dans une société rurale, agricole, il y avait la promesse spirituelle. Nous étions dans une société industrielle et c'était là. C'était le sol que l'on travaillait. L'industrie, c'était on travaillait la main, on travaillait la matière. Il y avait une promesse matérielle. Nous sommes aujourd'hui dans une société de l'immatériel où c'est l'esprit qui travaille. Et donc, on voit bien que cette promesse spirituelle qui a un peu disparu, cette promesse matérielle qui est éloignée, doit être aujourd'hui une promesse du bien-être. Ce qui est important, ce n'est pas l'accumulation des richesses matérielles, c'est la capacité de bien vivre sur un territoire et d'être heureux dans sa vie. Et cette notion du bien-être est extrêmement difficile. C'est le bien-être à l'école. Aujourd'hui, on continue à faire en sorte que les enseignants respectent plus les programmes que les élèves et de faire en sorte qu'on inculque des connaissances alors que notre responsabilité, c'est d'inculquer un éveil des consciences, un recul par rapport à l'information de l'immédiateté, une capacité d'analyse critique. Sinon, nous aurons un esclavage moderne où les sondages reflèteront non pas la conviction de nos concitoyens, mais le journal télévisé de la veille. Et l'on voit bien que dans cette stabilité de conviction, le monde rural a gardé cette tradition. Le monde rural a gardé cette formidable capacité d'écoute et d'accompagnement et de proximité. Nous sommes dans une société de nouvelles technologies où les gens, aujourd'hui, se parlent de plus en plus, ils s'écoutent de moins en moins. Il ne peut pas y avoir de vie collective s'il n'y a pas de compréhension de l'autre et d'écoute de l'autre. Aujourd'hui, on échange des mails, même à 5 mètres, les seules personnes qui se parlent, c'est ceux qui fument, parce qu'ils sont obligés de sortir pendant 10 minutes. Donc on voit bien que dans le monde rural, vous apportez ce sens de la nature, ce sens de la nature. Nous sommes probablement, et c'est difficile à quantifier, mais peut-être que M. Pierre Vert pourra le dire, on voit bien que nous sommes dans des paradoxes. Les progrès de la technologie n'ont jamais permis autant de reculer les limites du possible. Mais en même temps, la réalité du quotidien nous a jamais fait toucher autant la limite de l'intolérable du comportement humain. Et nous sommes dans une société très curieuse qui aspire au progrès, mais qui a peur du progrès. Qui sent bien qu'aujourd'hui, nous devons nous mobiliser. Nous sommes à la fin de cette limite de la société de consommation où l'homme vaut plus pour ce qu'il dépense que ce qu'il pense. Et nous voyons bien que nous allons devoir rentrer dans une société de mobilisation collective. Nous allons devoir rentrer dans une société de partage et de solidarité et d'échange. Le monde rural a gardé ses traditions. Le monde rural a gardé cette temporalité. Vous savez que dans toutes les religions du monde, lorsque vous rentrez dans les rites, il y a toujours, dans les temples bouddhistes ou dans les églises, un éveil des sens. L'encens, c'est l'odeur, c'est la vue, c'est le toucher. Notre société a perdu l'éveil des sens. À la nature, vous êtes dans le monde de la nature, vous êtes évidemment dans cette obligation de la rééducation des sens. Vous êtes aujourd'hui dans un moment extrêmement important. Vous évoquez la complémentarité ville-campagne. J'ai tendance à être en retrait par rapport à cela. Par contre, ce que je vois, c'est qu'il y a l'évasion de la réussite et la localisation de l'échec. Avant, on vivait mal à la campagne, on allait à la ville, mais on avait un emploi industriel. Aujourd'hui, on ne vit pas toujours bien à la campagne, on va à la ville, mais on n'a pas d'emploi. Et donc, il se crée des zones de désespérance, de concentration de précarité à la ville, qui peuvent créer des bombes politiques totalement insurmontables, parce qu'on ne gère pas les espérances. Et j'ai souvent utilisé cette formule, quand les sociétés sont gérées par des espérances, des peurs ou des humiliations, nous sommes à un moment particulier de notre société, où la gestion des espérances communistes a sauté avec le mur de Berlin, les espérances libérales avec Lehman Brothers, les espérances religieuses sont fragilisées, mais les espérances politiques, la réenchantement du lendemain, a du mal à exister. Si l'on ne retrouve pas cette capacité de créer des espérances collectives, on laisse la porte ouverte à celles et ceux qui gèrent les peurs. Généralement, ce sont les droites au niveau européen, ou celles et ceux qui gèrent les humiliations. Généralement, ce sont les gauches au niveau européen. Mais ces sentiments sont extrêmement préoccupants, car ils vont initier le renfermement sur soi, le repli identitaire, des violences de plus en plus fortes contre l'autre. Plus notre identité est faible, plus on se construit dans la conflictualité. Plus notre identité est forte, plus on a envie de partager avec l'autre. Et donc, reconstruire son identité, c'est de savoir d'où l'on vient, d'où l'identité des terroirs. Et ce qui me paraît important, Monsieur le Président, ce n'est pas que vous soyez à la campagne ou à la ville, c'est que vous êtes sur des terroirs, avec une histoire, des langues vernaculaires, une liaison évidente entre le sol, la production, la cuisine, la culture, l'essence, et aussi une volonté d'un patrimoine. Vous faites partie d'un patrimoine culturel. La mondialisation n'est pas l'uniformité, c'est la diversité culturelle. La culture, comme disait Malraux, ce n'est pas la supériorité, c'est la fraternité. Et nous avons besoin de retrouver ce sens du partage, ce sens de l'échange, qui n'est pas uniquement marchand. Ces valeurs qui ne doivent pas uniquement être quantifiées, la valeur du temps, le sens du temps, l'utilité que l'on donne au temps. Nous sommes dans un moment où l'on consomme son temps de plus en plus rapidement. La France est aujourd'hui stressée. On n'est pas fatigué au travail, on est stressé. Tout simplement pourquoi ? Parce que le temps inutile nous culpabilise et on est tous en train de consommer du temps. Le monde rural peut apporter une espèce d'apaisement dans cette temporalité vorace pour essayer de prendre du recul, de redonner du sens au temps, du sens à l'autre, du sens à l'espace, au moment où les nouvelles technologies vont vous obliger à un nouveau rapport de l'homme à l'espace, de rapport au temps, de rapport. Et tous vos services, l'hôpital, on me racontait il y a relativement peu de temps que l'on va pouvoir brancher sur son petit doigt un capteur qui sera lié à votre iPhone, qui la nuit pourra analyser vos maladies du sommeil, être envoyé au médecin à 300 km qui pourra analyser à distance votre problème. On voit bien qu'aujourd'hui, ne soyez pas campés sur vos structures, ne soyez pas campés sur vos pouvoirs. Mettez votre pouvoir de réflexion au projet qui peut éventuellement vous rassembler. Essayez de séparer la défense des intérêts légitimes à l'adhésion aux causes. Ce qui est important, c'est la cause européenne, ce n'est pas uniquement la défense de l'intérêt national. Sinon, l'on voit bien que la cause est piétinée sous le choc des intérêts. Je disais à la FNSEA il n'y a pas longtemps, c'est bien de défendre l'agriculteur. Mais aujourd'hui, vous devez défendre l'agriculture au moment où le défi alimentaire est un défi mondial, dont nos concitoyens, d'ailleurs, n'ont absolument pas conscience. Et l'on voit bien que le vrai problème aujourd'hui dans la stabilité du monde, c'est la défense de l'agriculture. Il appartiendra ensuite aux syndicats de voir comment l'agriculteur, dans cet développement de l'agriculture, peut y trouver sa place. Et donc, sans vouloir être trop long, je veux vous inviter à l'optimisme, à la mobilisation, à la seule condition que l'on mette à plat toutes nos hypocrisies. On est tous pour soutenir le politique à condition qu'il assume des vertus qu'on ne peut pas s'assumer soi-même. On est tous pour des grands projets à condition de ne pas les subir au niveau de nos intérêts. Aujourd'hui, vous avez une formidable opportunité. La civilisation a besoin aujourd'hui de vrai. La nature est vraie. La civilisation a besoin aujourd'hui des sens, de l'autre, d'une relation nouvelle à la nature. L'homme a été trop souvent cette société de consommation à chercher à remplir le portefeuille et a malheureusement vidé les cœurs. Nous avons un moment aujourd'hui de réveiller les consciences, de susciter les esprits pour reconstruire un certain nombre de convictions. Et la conviction, ce n'est pas l'accumulation des richesses matérielles, c'est le bien-vivre. Et réfléchissons au bien-être local, au bien-vivre local. Et l'on voit bien que dans cette chose-là, ce n'est pas forcément l'opposition ville-campagne qui a toujours l'avantage dans la conflictualité de se construire une identité. C'est au contraire dans le partage ville et campagne, en faisant disparaître les frontières et en remettant des complémentarités, qu'on peut peut-être essayer de réfléchir aux uns et aux autres quels sont les chemins d'espérance qu'on peut offrir à nos concitoyens sur un projet de société dont, à l'évidence, l'histoire de la ruralité, la civilisation rurale, a montré toute sa force, toute son intelligence et toute sa pertinence. Bon congrès.